Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Bonsoir à tous, match de légende, after de légende ce soir. Et oui, on a vu un match qui restera dans l'histoire du football. Même si la France n'est pas championne du monde, c'est l'Argentine, vous le savez évidemment, qui remporte son troisième titre. Et l'after est là jusqu'à 2h du matin sur RMC. C'est une nuit exceptionnelle puisque après 2h, on rediffusera la finale en intégralité jusqu'à la matinale. Donc à 4h30 cette nuit. On est en direct toujours du Qatar pour un dernier after. Ici à Doha, et Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Enfin, nous, on était déjà à l'antenne.
Je vous ai entendu.
Juste salut toi, c'est tout alors.
Très bien. Lionel Charbonnier, salut Lionel.
Salut Gilbert, et salut à ceux qui nous rejoignent.
Oussem Loussaïef est là également, salut Oussem.
Salut Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut
tout à l'heure, Nicolas Jamin sera là, Kevin Diaz sera là, Florent Gautreau, Walid Acherchour, ils seront tous là avec vous au 32-16, puis la libre antenne, donc de 1h à 2h avec Nico Villas et Thibaut Giangrande, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et donc pour une nuit d'analyse et d'évaluation après ce match, le 32-16 est ouvert. Hein. Appelez-nous, n'hésitez pas, si vous voulez revenir sur les performances individuelles, sur le match dans sa globalité, sur Mbappé, sur Deschamps, Scaloni, la séance de tir au but, bref, enfin, il y a tellement de choses là, on va essayer de les faire dans l'ordre. Enfin, le 32-16 est ouvert pour tout ça, tout comme notre messagerie Direct Studio qui est disponible sur les applis RMC et RMC Sport, et puis le hashtag RMC Live sur Twitter, et puis Snapchat, Instagram,
on est partout,
dispo avec Ouseb. Les gars, je vous pose une première question. Alors je sais que vous avez déjà débattu de plein de choses avec Jean-Louis là, avant que l'after ne démarre. Je vais donc essayer de remettre les choses dans l'ordre et de prendre un peu de perspective. Est-ce que ce match de légende, parce que c'en est un, efface un peu de la déception quand on est français? Lionel, toi qui es un de nos rares champions du monde.
Complètement. Complètement. J'arrive pas. Alors je suis déçu par comme Dédé, tu vois, sur le tu perds au penalty, tout ça. Mais derrière, je me dis, mais je peux pas. Je suis pas triste parce qu'on a vu un match d'anthologie, sûrement le match de toutes les coupes du monde. Avec du recul, franchement, moi c'est hallucinant. Tu regardes ce que je disais. J'ai dit, mais si c'était un mec, tu vas au cinéma, un mec il écrit un film comme ça, tu sors, tu dis, bon, c'est pas possible le scénario. Le mec il y
déjà,
comprend rien.
Déjà, ce serait une série en 12 épisodes.
Parce que c'est déjà. Et puis tu dis, mais il se fout de nous, quoi. Ça peut pas se terminer comme ça. Le foot, c'est pas comme ça. Le mec il comprend rien. Il nous raconte une histoire. Bon, voilà, c'est pour la belle histoire, le machin. Tu dis, mais tu n'allais pas le voir, ça n'arrivera jamais. Le mec il sait pas ce que c'est que le football. Et ben voilà, ben c'est ça le football. C'est, on a vécu aujourd'hui, donc je n'arrive pas à être triste, d'avoir trop de tristesse, parce que on a vécu un grand match. Et puis quelque part, ben je l'avais dit déjà, ok, on n'a pas cette Coupe du Monde, mais on a le sacre d'un grand joueur aussi. Donc écoute, pour un peuple, pour un grand peuple, et aussi, même si le peuple français l'aurait mérité, eh ben écoute, j'arrive pas à être triste. C'est un truc de fou ce qu'on a vécu. C'est un truc de fou.
Daniel, d'accord avec Lionel?
Absolument. Tu sais qu'il y a quelques jours, on disait, et quand je l'avais dit, ça avait pas forcément été bien compris ou bien pris, mais j'avais dit, il y aura quelque chose quand même de très particulier dans cette Coupe du Monde, c'est que le fait de voir cette Argentine avec tout ce qu'il y a autour, et notamment Messi forcément en personnage central, champion du monde, je pense que ça va faire plaisir indirectement à beaucoup de gens dans le monde. Et c'est pas pour rien que la majorité des gens dans le monde étaient plus pour l'Argentine que pour la France. Et j'avais même dit, en tant que supporter français, il y aura quelque part une consolation à dire que t'as perdu contre eux et contre Messi. Mais de là à imaginer que ce raisonnement-là viendrait au bout d'un tel match, évidemment que c'était pas prévisible. Mais je trouve que ça renforce mon raisonnement de base, parce que je me dis, bah, si en plus ça doit se finir comme ça, Alors évidemment que moi qui étais déjà dans le camp de Lionel, je le suis encore plus à dire que oui, enfin, d'un point de vue du une fois gommée la passion du supporter, d'un point de vue du foot, quand t'aimes le foot et quand t'aimes son histoire, comme je l'ai répété toute la semaine, comme on l'aime nous, à le raconter tous les soirs, à s'intéresser à l'histoire essayons, de ce sport-là, Daniel, des de champions, de des équipes. On a vécu un moment, je veux dire, ça fait 16 ans qu'on fait l'after, on en a vu des soirées, on en a vu des, on a vu les bleus champions du monde.
Là, t'es dans le top 3 des matchs les plus dingos, là.
On a vu des matchs de Ligue des Champions avec nos équipes, qui ont fait des trucs bien et surtout des trucs pas bien, des déceptions de ouf, oui, des remontadas folles, un euro 2016 où tu perds.
Oui. Daniel, la frustration aussi, elle peut faire naître de la tristesse. Parce que moi, je suis d'accord avec la dramaturgie que vous mettez en avant, et c'est vrai que c'était incroyable, surtout dans le stade.
Mais tu vois,
je suis frustré quand je vois la première période qu'on fait. Et c'est ça qui entraîne.
Attends, on va y revenir. On va revenir sur le scénario.
À l'impact, que tu prennes une claque et que certains supporters. Mais la plupart qu'on voit défiler à la télé depuis tout à l'heure, tu sais, dans tous les lieux publics où il y avait des supporters français. La plupart. Au final, une demi-heure après, il sourit, il dit mais on a vécu, on a participé à un truc de fou.
Émotionnellement, c'est un truc de fou. On a été acteur de ça.
Est-ce que les gars, évidemment, le match est terminé il y a quoi, de 2 heures maintenant.
Ouais.
Est-ce qu'on a vu ce soir la finale de Coupe du Monde la plus belle de l'histoire?
Je crois, oui,
pour moi, oui.
Parce que il y a dans les.
Je parle de finale historique, évidemment.
Le tournant historique du football, c'est la Coupe du Monde en couleur en 70, mais la finale était à sens unique. Elle est très belle en termes de jeu, mais elle est à sens unique.
Oui, c'est surtout la demi qui a été un match extraordinaire.
Voilà, après.
2006 aussi, non, Daniel? Daniel, au niveau de la dramaturgie.
Avec le coup de boule, oui.
Au niveau de la dramaturgie.
Oui, mais bon.
Zidane qui rate, Buffon qui sort la tête de Zidane juste avant l'expulsion.
C'est pire.
Tu
n'as pas des rebondissements aussi forts que ce soir. Et 86, il y a 3-2. Mais les Argentins mènent, ils sont repris par les Allemands. Mais franchement, à cette époque-là, tu gérais les résultats grâce au temps mort et tout ça.
Il y a des gens qui vont rebondir.
Il y avait moins de suspense. En termes de suspense, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu plus fort que ça.
Je sais qu'il y a des personnes qui vont bondir. Charbonnier, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles de ce match-là? 98, c'était fabuleux. Mais rien à voir dans la dramaturgie, dans tout ça.
Ah oui.
98, c'était. Oui, c'est fabuleux, c'est la première. C'était un peu à sens unique. Voilà, mais on a marché sur les Brésiliens comme on s'est fait marcher dessus par les Argentins.
98, c'est simple, les gars. C'est la première mi-temps de ce soir.
Exactement.
Plus une deuxième mi-temps, pareil.
Exactement. En fait. Sauf que
et là c'est fini.
Et là, la différence, c'est que les Français n'acceptent pas
ça. Pardon, mais les Brésiliens en 98, ils ont plus d'occas que les Français jusqu'à la 75e ce soir. Hein.
Ouais, mais ils les mettent pas.
Nous, on les met près. Enfin, nous, on
a. Moi, je te parle d'occas. Là, les Français ce soir, jusqu'à la 75e, c'est le néant total.
64e, première frappe.
Le néant total.
Ouais.
Le match devient fou, comme je l'ai dit depuis le début. Le côté historique de ce match est rendu possible grâce à un homme, Kylian Mbappé. C'est l'Argentine contre Kylian Mbappé. Le reste de l'équipe de France.
Ah, je ne suis pas d'accord avec toi, Daniel.
On va faire le débat dans quelques instants.
Qui t'a trouvé de bon à part lui, quoi.
D'abord, André est là au 32-16.
C'est 100%
André,
Mbappé ce soir, il n'y a que lui.
Non, je ne suis pas d'accord.
Salut André.
Attends, tout à l'heure,
on a le temps les gars, on a toute la nuit. André, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Bon, est-ce que toi tu fais partie des supporters malgré tout très déçus où tu te dis ce match était tellement incroyable que finalement ça a tourné en faveur de l'Argentine au final et on a quand même passé une Coupe du Monde sympa et une soirée exceptionnelle.
Ça tourne toujours pour toi normalement, donc c'est bon.
C'est assez difficile, c'est un sentiment très difficile. Déjà deux choses, on a vécu quand même un match extraordinaire avec un scénario de dingue. Souvent dans l'after, j'écoute tout le temps, donc on parle des émotions. On a eu notre lot d'émotions ce soir avec ce match.
Ça, c'est sûr.
Mais c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Daniel, très justement, si on analyse froidement, et Oussem l'a dit tout à l'heure aussi au début de l'intervention, si on analyse froidement le match, on n'a pas été bon pendant 70 minutes, on s'est fait marcher dessus, les Argentins étaient archi
ils méritent largement leur victoire, les Argentins, faut dire la vérité.
Oui, ils méritent. Mais après, c'est vrai qu'on reprend espoir parce qu'on marque deux buts très rapidement.
Ah non, mais que t'es l'espoir, que t'es la niaque, le courage et tout. Mais il faut avoir le courage de dire que si on aime le foot a gagné ce soir.
Oui, c'est vrai. Mais
c'est dur à entendre quand t'es supporter, mais c'est la vérité.
Oui, mais dans l'émotion, forcément, on se dit c'est encore possible.
Oui.
Mais c'est vrai que pour la première mi-temps, les mecs étaient à mort, c'était assez bizarre. On se pose des. Ils avaient les jambes lourdes, enfin. Comme si c'était un match de préparation d'été qui était très compliqué, où on n'arrive pas à faire le contre-pressing, les passes, Griezmann, j'ai trouvé très difficile à joindre entre les lignes. Il y avait, et là, on remonte assez loin à cette liste. On se dit, mais en fait, à part si Griezmann est entre guillemets bien pris, et si Mbappé, donc forcément, n'a pas de ballon, on n'a pas de créativité dans cette équipe. Donc, on remonte toujours avec le même problème, le système. Donc, je prends un peu le débat, je pense, c'est de savoir si le Deschamps va rester. Mais je pense que j'aimerais en tout cas voir autre chose. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été incapable de les mettre en danger, de trouver des passes dans les lignes. À chaque fois, il était super pris. Donc forcément déçu, mais on a vu
C'est sûr que j'aimerais voir
Mbappé jouer avec un autre entraîneur. Le système, il n'a pas changé. Et tu reviens à 2-2 quand même. Et le système ne change pas. Et tu reviens à 2-2. Il y a les joueurs qui changent.
Il nous fait une bonne transition, André.
Exactement.
Il nous fait une bonne transition pour parler du match dans quelques instants. On va faire ça mi-temps par mi-temps, ensuite la prolongation. Je voulais juste une stat là, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors je vous la donne. Comme ça vous permet de réfléchir un peu, et surtout toi, Lionel. Écoutez bien ça.
Fallait la donner il y a une heure pour moi alors.
Écoute bien ça. Sur les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur, 2022 contre l'Argentine, 2021 contre la Suisse, 2006 contre l'Italie, nos adversaires ont marqué tous leurs tirs au but. Le dernier tir au but frappé contre la France, c'est Di Biagio en 98, il y a 24 ans.
C'est dingue, Biagio, ça, c'est pas un peignoir arrêté, il le met sur la barre.
Ben, en plus.
Mais juste
on y reviendra tout à l'heure.
On avait raté un.
C'est intéressant de voir son travail au niveau des gardiens.
On y reviendra tout à l'heure. Allez, on a le temps. N'oubliez pas, l'after est là jusqu'à 2h du matin. Ensuite, rediffusion de la finale. Donc, on va rentrer maintenant dans le scénario du match. La première mi-temps, ce qu'a fait Deschamps, ce qu'a fait Scaloni. On va faire ça un peu mi-temps par mi-temps, comme ça, pour décrypter ce qu'on a vu et ce qu'on a pensé de la production des deux équipes. On se retrouve tout de suite dans l'after. Il est 23h10 ici. À Doha, 21h10 à Paris, et l'Argentine est donc championne du monde. Et l'after est là jusqu'à 2h. À tout de suite.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Votre émission sur RMC avec Groupe Verlaine. Produisez et consommez votre propre énergie avec Groupe Verlaine, l'expert du photovoltaïque pour maisons individuelles.
RMC félicite l'équipe de France de foot qui nous a fait rêver pendant 4 semaines jusqu'à une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Merci les Bleus.
Merci les Bleus.
Merci les Bleus.
Merci les gars, merci les Bleus.
Amstram, gram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam, ce sera toi.
Dans le monde, près d'une personne sur deux touchée par la faim est un enfant. Dites stop dès maintenant en faisant un don à Action contre la faim. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une réduction d'impôt de 75% du montant de votre don. Un don de 120 euros ne vous revient alors qu'à 30 euros. Rendez-vous sur don.actioncontrelafaim.org.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after est là jusqu'à 2h du matin. After exceptionnel ce soir, évidemment. After après une finale de Coupe du Monde de la France qui a perdu au tir au but. Vous l'avez suivi sur RMC. Tout à l'heure, on revivra d'ailleurs quelques-uns des grands moments de ce match. Hein, si vous n'étiez pas à l'écoute d'RMC il y a quelques heures maintenant, Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là, Oussem Loussaïef. Tout à l'heure, on aura Florent Gautreau, Kevin Diaz-Volé d'Acherchour. Voilà, tout le monde vient ce soir. Hein, c'est normal. Finale de Coupe du Monde, on veut la vie de tout le monde. Juste. Petit point informatif sur l'avenir de Deschamps. Sur TF1, il a dit que de toute façon, même si la France avait été championne du monde ce soir, il n'aurait pas dit ce soir ce qu'il faisait. Ah, peut-être qu'il ne le sait pas lui-même, j'en sais rien. Mais enfin bon. En tout cas, Emmanuel Macron a dit qu'il lui avait demandé de continuer. Alors si maintenant le président de la République se mêle de ça aussi...
Le président de la République a bien dit à Mbappé de rester au PSG. Il peut
c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça a marché une fois.
France. Ouais. Non, ce qui aurait été mieux, c'est qu'il en profite pour dire, pour faire un pas de côté et dire à Noël Le Graët, mon monsieur, il est temps de partir maintenant.
Oui. Ah non, il allait consoler
Parce
Mbappé.
Que sur le podium là, c'était, il représentait la France. Quelle honte. Il était débraillé. On dirait qu'il sortait du lit. Mon Dieu, quelle image du football français.
Bon alors, reprenons maintenant ce match étape par étape. J'aimerais que là, on parle dans les minutes qui viennent de la première mi-temps,
oui.
Exclusivement. Ça veut dire choix des coachs pour démarrer. Est-ce que vous pensez qu'en faisant le choix de Di Maria, Scaloni a automatiquement pris une sorte de dessus qu'on a vu très vite dans le match avec les transversales de Messi vers Di Maria qui étaient quasi automatiques. Oui. Notre côté droit
Dembélé,
Koundé qui a été en difficulté très très vite, et le pauvre Dembélé, on va y revenir dans l'évaluation tout à l'heure, mais là c'est le cauchemar absolu pour lui ce soir. Donc est-ce que ces choix de coach pour vous ont influencé directement la première mi-temps qui a été évidemment un festival argentin?
Le choix de Scaloni, il est clairement audacieux. Quand j'ai vu la compo, que j'ai vu 4 derrière, alors qu'on s'attendait tous à 3 dans l'axe, plus 2 couloirs.
Beau petit bluff d'ailleurs depuis 24 heures.
4 derrière, 4-4-2, il nous a fait.
4 derrière, un milieu très renforcé avec 3 très bons joueurs et donc un trio offensif face à la France, c'est déjà audacieux à la base, face aux Bleus qui adorent ne pas avoir le ballon et contrer. Je trouvais que c'était une double lame d'audace quand même. Résultat, Scaloni donc, qui est peut-être finalement le seul sélectionneur qui n'a pas peur des Bleus, et l'Argentine la seule équipe qui n'a pas peur de prendre le jeu à son compte contre les Bleus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le match. Agressif, a gagné tous les duels, techniquement au-dessus. Démonstration sur le deuxième but. C'est une démonstration. Le deuxième but est extraordinaire, de la première touche de balle à la dernière. C'est un régal de voir cette action-là. Le pari de Scaloni est excellent. En face de cette initiative-là et de cette audace, on a eu des Bleus qui n'ont rien changé du tout, qui ont continué à jouer comme ils savent faire. Mais ça me poussera à dire quand même et à analyser également le coaching de Deschamps et ce qu'il fait dans les matchs, puisque tout le monde se met à genoux face à une réussite qu'on met en synonyme de baraka ou de chatte. Mais finalement, ce soir, moi, je trouve que, moi, en tout cas, j'ai ouvert les yeux parce que je me refusais à analyser les matchs de Deschamps parce que je me disais c'est quand même impossible, ils sont jamais morts, ils finissent toujours par s'en sortir. Ce soir, je les ai vus se faire balader pendant 75 minutes, comme je les ai vus se faire un peu moins balader contre l'Angleterre, mais balader quand même, et comme je les ai vus se faire également largement dominer par le Maroc en demi-finale. À un moment, il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas de chat à Dédé ou de ceci ou de cela, il y a Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui maintient en vie les Bleus de 2018 à aujourd'hui. Contre l'Argentine en 8e, il y a 4 ans, sans Mbappé, tu te fais sortir et au revoir tout le monde. Au revoir la chat à Dédé, au revoir la réussite, au revoir les Bleus, au revoir tout le monde. Les Bleus, c'est Mbappé. Quand on aura. Et j'ai mis du
et
temps.
Et on n'a pas vu Mbappé en première mi-temps.
Mais peu importe, peu importe.
Justement,
il suffit que tu le vois 5 minutes. Ce gars-là fait des trucs que les autres ne font pas.
Gars-là. Il s'avère qu'en première mi-temps, il a vu très très peu de ballons sur la première mi-temps.
À un moment, il n'est pas seul. Mais même seul, il arrive à maintenir à flot une équipe qui s'est fait manger. Le choix initial, je termine sur les choix initiaux. Finalement, puisqu'on en a parlé pendant que vous n'étiez pas là avec Lionel, quand Lionel n'arrêtait pas de dire « Ouais, Dembélé pas trop », je ne pouvais pas le contredire sur le Dembélé pas trop. Là où je le contredisais sans véritable info, mais moi je m'en remets au gourou, au grand Manitou, au manager hors pair qui est Deschamps, s'il ne fait pas jouer Kingsley Coman, moi, je me dis Kingsley Coman, il doit être malade, il doit avoir mal aux pieds, il doit avoir mal aux fesses, il doit avoir mal à la tête, il a mal aux cheveux, j'en sais rien. Si Kingsley Coman, il joue pas, moi, je me dis, c'est pas possible. Un Dembélé comme ça, alors que t'as Coman sur le banc, moi, je me dis, ça veut dire qu'il doit être malade, il doit pas être bien. En plus, on n'arrêtait pas d'entendre qu'il y a un virus, mon cul, machin, tout. Bon, non, ok. Surtout, sauf que quand Coman, il rentre, les Bleus ont juste un peu joué, mais c'est quand Kingsley Coman est rentré. C'est oui, juste ça.
Bien sûr. Avec,
c'est là que ça a changé.
Avec Colomouani, mais.
Oui, mais surtout.
Un peu avant, Daniel. Daniel, un peu avant.
Lionel. Daniel, laisse la parole un peu aux autres. Lionel, sur les choix de Scaloni, est-ce que tu as l'impression que Scaloni, c'est lui qui a fait la diff avec sa compo de départ et le choix de Di Maria? Et puis surtout, le fait d'aller le chercher systématiquement.
Oui, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Daniel, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc Scaloni, il a mis l'équipe. Enfin moi je suis bluffé par Di Maria n'ayant pas joué comme ça depuis pas un match entier dans le mondial, je me dis bon, il va pas tenir le match, il va être cramé tout ça, parce que au moment où il le sort, il est encore très bien, hein. Il est encore très bien.
Il avait joué 10 minutes depuis la fin du premier tour.
Ça nous a fait du bien. C'est là où on marque les deux buts.
On va y revenir après. C'est en deuxième mi-temps, ça.
Ça, c'est en deuxième mi-temps. Mais sinon, pour le début du match, non, Scaloni, rien à dire sur sa compo ambitieuse. Il a été cherché. Il avait des mecs. Il a mis une équipe à la hauteur des ambitions.
Il a mis une équipe conquérante.
Et là où il a été très fort. De ce qu'il voulait obtenir.
Et là où il a été très fort, c'est qu'il avait compris quel était notre point faible. C'est la gestion du milieu de terrain. Et moi, je ne cesse de le dire dans cette émission. Si le cœur du poumon est bon, l'équipe sera bonne. Et ils nous ont bouffé au milieu de terrain.
On parle de Scaloni, il est en direct.
Vas-y.
On va l'écouter.
La verdad que no estaba en los planes míos, al menos ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es
la manera, la banalité, c'est le plus important.
Justo vencedores.
Next one, the gentleman with the orange shirt on the third row.
C'est la conférence de presse officielle, hein. Donc j'essaie de vous traduire avec mon excellent espagnol de Strasbourg.
A Galio, Lionel. Bueno, arranqué la conferencia cuando te dije, cuando charlamos ahí en ese mano a mano, como dijiste, está grabado o no está grabado, pero por más allá de eso, lo que te decía, que yo te había dicho que este ciclo, en el comienzo de 2019, se veía que podía ser un cierre acá en un Mundial, ¿no?
Y parle du ciclo Scaloni, du début a maintenant.
Preguntarte, vos hablaste del partido, ¿cómo se vivió el partido? Pero también la segunda pregunta es el ciclo.
¿Cómo es que tú has vécu ce match y todo ce cycle a la tête de l'Argentine?
Creo que bueno, el balance. Y el partido, bueno, repito, creo que teníamos que haberlo ganado en los 90, teníamos que haberlo ganado.
Fallait le gagner dans les 90 minutes, c'est ce qu'on voulait faire.
Y el espíritu de este equipo de no darse nunca por vencido, de recibir esos palos de los goles de Francia.
Et on s'attendait pas à ce que la France marque ces deux buts-là.
Y seguir intentando, más o menos como el día de Holanda, que seguimos y sabiendo que.
Donc là, on a fait un peu comme contre les Pays-Bas, il fallait s'accrocher, quoi.
Next question on the first row.
Ah, bon, il a pas répondu à la deuxième.
First row.
Leo, ¿cómo va? Alejandro Magdaleno, diario de la República de San Luis. Gracias por traer la bandera primero que te dimos en el primer partido.
Les journalistes argentins qui en font des tonnes.
Llévatela, que para nosotros es un enorme placer y satisfacción. Bilardo decía que hay veces que ganar no es lo más importante.
Bilardo decía que ganar es lo más importante.
Porque hoy lo pasaron por arriba a Francia 80 minutos, pero al final a lo mejor la moneda podría haber caído para el otro lado. Hay un país, todo un país, que está como loco en las calles. Por ustedes, háblale a ese país, a esa gente.
Y a todo un país que en folie actuellement.
La felicidad enorme que ustedes nos han regalado hace un ratito.
Una joie énorme pour tous les Argentins.
Para toda la eternidad.
Bueno, pues esta cuestión, ¿la?
Demasiado.
Dice trop.
Sinceramente, lo que yo vengo diciendo en las ruedas de prensa y no es. No la voy a cambiar ahora mi manera.
Je vais pas changer ce que j'ai déjà dit dans les conférences de presse.
Este equipo, estos jugadores juegan. Juegan para la gente, juegan para
el hincha. Ces joueurs jouent pour les gens, pour les Argentins.
No hay individualidades, todos tiran para un mismo lado y es para la selección argentina, para el país.
Voilà. Ils tirent tous dans le même camp pour le pays, pour l'Argentine.
Poder jugar para tu país. Entonces, bueno, decirles eso, que estos chicos se han brindado al máximo, que han conseguido este título porque han entendido lo que realmente había que hacer adentro de la cancha y bueno, estamos contentos. Y
voilà, nous, l'essentiel, c'est qu'on soit là, qu'on soit sur le terrain et que tout se passe bien.
A lo mejor no. O sea, no es importante.
Pas de banalité.
Ouais, on peut passer, là, Gilbert. Pourquoi tu veux écouter absolument, là?
C'est juste de l'entraîneur champion du monde, quand même, Scaloni.
Il parle aux journalistes argentins, se raconte leur vie, là.
Je termine juste sur l'analyse tactique et vous le disiez, ils ont appuyé physiquement et surtout ce jeu entre les lignes. McAllister, Messi, très proches les uns des autres, l'un de l'autre pour nourrir en ballon Di Maria. Et je trouve que c'est là où ils ont fait mal. Ça nous a forcé à reculer à la ligne du milieu de terrain qui allait se coller aux défenseurs centraux chez nous. Et on a été en difficulté sur chaque ballon où Messi et McAllister étaient proches.
Tu aimes bien cette zone du terrain, le milieu de terrain. Est-ce que tu échanges un seul de nos milieux de terrain contre les Argentins? Bah non. Enzo Fernandez,
si, là,
McAllister. Enzo Fernandez, McAllister.
Rodrigo De Paul.
Et Rodrigo De Paul, j'en échange aucun contre les Bleus. Aucun.
C'est sur le match d'aujourd'hui ou dans la globalité, tu parles? Moi, je prendrais bien Enzo Fernandez à la place de Tchouaméni, je dis la vérité.
Non, ça, c'est sûr déjà. Non, mais tu as compris ce que je voulais dire, c'est que tu ne prends aucun bleu à la place de ces trois argentins.
Ah, ok.
Toi, tu dis dans l'absolu ou sur le match de ce soir?
Même dans l'absolu. Je préfère McAllister à Rabiot.
Ouais. Griezmann ce soir, il passe à côté, mais il fait une bonne Coupe du Monde quand même.
Griezmann, il fait une énorme Coupe du Monde, mais
Rabiot aussi fait une énorme Coupe du Monde.
Sera-t-il à ce niveau de milieu de terrain pour toujours? Ça, j'en sais rien. Maintenant, le passé est un peu derrière lui.
Rabiot peut l'être.
Mais Enzo Fernandez, il y a pas l'équivalent dans le milieu de terrain des Bleu et McAllister non plus, et De Paul dans le rôle du travailleur obscur, pardon, il est extraordinaire De Paul ce soir, hein. C'est vrai
qu'il fait un match extraordinaire.
C'est au milieu de terrain, c'est au milieu de terrain qu'ils nous ont cassé en deux. Hein.
Mais j'ai au milieu de terrain, en première mi-temps particulièrement.
Oui, c'était impressionnant. Impressionnant. C'était impressionnant.
Mais tu sais, les Anglais nous avaient cassé en deux, ça nous a pas empêché de les éliminer.
Les Marocains aussi.
Et les Marocains.
Même milieu de terrain.
Et les Marocains aussi. Donc on en a fait beaucoup sur notre milieu de terrain. Oui, non mais il faudra repenser ça à tête reposée. Oui, on est allé en finale, on a fait une finale de légende historique. Mais parfois à se demander de quelle façon tu y vas, parce que Tchouaméni, Rabiot.
Ouais, moi, on a parlé de Scaloni. On a parlé de Scaloni, Lionel.
Ça n'a pas été dingo.
À partir de la 80e, on réagit plus pareil. Parce que
alors, attends, là, tu parles de la deuxième mi-temps. Essayez de rester sur la première. Lionel, je parlais de Scaloni. Maintenant, parlons du début de match de l'équipe de France. Parce que là, il y a quand même eu un problème. C'est-à-dire que.
Mais Gilbert, tu as
l'impression que les mecs ne jouent pas une finale de Coupe du Monde.
Il y a eu problème qui t'ont marché dessus.
Mais il y a eu plein de problèmes. Il y avait quelque chose de plus, Daniel, je te jure, depuis le stade. Demande à Gilbert.
On était au stade,
impressionnant. Amorphe.
Tu avais l'impression qu'ils jouaient un match amical contre la Biélorussie au stade de France en janvier.
Et à partir de la 80e, il n'y a plus que sur le terrain.
Non, mais tu sais, par exemple, moi, celui qui m'a le plus marqué sur ce côté amorphe, c'est Théo Hernandez. Je l'ai jamais, même dans les attitudes.
Soit il y a des mecs qui flippaient.
Ou c'était malade, je ne sais pas.
Mais il y avait un problème.
Mais c'était fou.
Soit on a mal préparé.
Ils sont préparés par le grand manager et grand gourou des champs.
Bah là, il y a problème.
Tu voyais Théo Hernandez avec les bras ballants. J'ai jamais vu.
Ça se voit aussi quand tu analyses.
Dembélé en flip total sur tout ce qu'il faisait.
Quand tu vois les passes techniques, la technique, on faisait pas des passes, il y a eu des ballons en touche. Même Varane, il a fait des passes en touche à la 70e. Il faisait des passes en touche.
Vous sous-estimez le match des Argentins.
Non. On sous-estime rien du tout. On essaie de comprendre aussi ce qui s'est passé côté français. Lionel, t'avais la parole, vas-y.
Il s'est passé que dès que t'avais le ballon, t'avais des chiens sur toi, quoi.
C'est vrai aussi.
Mais revoyez, mais c'était impressionnant. Il y avait deux classes d'écart. Mais t'avais un ballon, ils étaient sur toi comme des morts de faim.
Oui, mais regarde, Daniel,
ça te tape sur le système parce que tu te dis, oh putain, mais c'est pas possible, ils sont trop forts.
Mais pourquoi est-ce que les Français n'ont pas été capables de mettre un peu le pied, d'y aller?
Et pourquoi est-ce que c'est eux qui le mettaient, le pied? C'est des
bases. Non, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un peu d'adversité, là, il y avait que dalle, c'est ça le problème.
Et alors pourquoi d'un coup, ils ont basculé à partir du premier but?
Ils ont pas
parce que là
parce
c'est
que
différent.
Non.
Parce
que tu t'es fait manger.
C'est le foot est comme ça. Tu sais que c'est un éternel balancier. Et après, quand on parlera de la deuxième mi-temps, on verra que quand Di Maria est sorti, que Scaloni a changé. Peut-être c'était une erreur d'ailleurs. Et ben tout a
c'est
été
rééquilibré, bien sûr.
Tout a été basculé. Lionel, t'avais la parole. Je te laisse terminer. Après, on accueille Yanis au 32-16.
C'est rééquilibré. Techniquement, ils ont été de A à Z supérieurs.
Je pense que le plus gros problème, il a été psychologique. On est très mal rentré dans le match. Mais moi je compare franchement parce que j'ai que ça peut-être et je suis qu'un petit joueur, mais je compare cette finale là et le comportement des Français à la finale de 98 avec le comportement à l'inverse des Brésiliens. Et aujourd'hui on est devenu des Brésiliens, on est passé
à côté. Et
Brésiliens,
t'avais Ronaldo qui était malade.
Ronaldo, tu savais pas s'il était bien. Si t'as pas Ronaldo, les autres ils sont pas bien.
Il était malade chez les Bleus.
Là il y avait Giroud qui était malade, il y avait Rabiot qui revenait de maladie, il y avait Varane, Kingsley Coman, Upamecano.
Ils étaient malades à partir de la 80e. C'est eux, on voyait, ils couraient.
Non, ils étaient pas malades, ils revenaient de grippe.
Daniel, tu fais un cliché sur la 80.
Non mais arrêtez, c'est pas le problème.
Incroyable.
Le problème c'est l'investissement personnel
Daniel,
c'est que chacun a mis.
Daniel,
et la préparation.
Daniel, tu fais un cliché de la 80e. Tu sais très bien, toi qui connais le football, que la 80e a basculé à la 80e parce qu'avant il s'est passé plein de choses. Et il y a des entrées dont on ne parle pas. Celle de Camavinga, elle est exceptionnelle.
Tu vas trop vite, c'est la deuxième mi-temps.
On parlera de ça.
Calme-toi. D'abord j'accueille Anis au 32-16. Anis, bonsoir.
Oui, bonsoir Mathieu, comment ça va?
Salut.
Ça va et toi?
Salut Anis.
Alors là, on est sur la première mi-temps là. Pardon?
Anis Hollywood sur Twitter, pardon, ceux qui me connaissent, juste pour me réintroduire à la populace. Voilà.
Très bien, monsieur Hollywood. Donc sur la première mi-temps là, tu dis quoi toi?
Non mais moi, vous avez un peu tout dit. En fait, c'est l'investissement, honnêtement, sans faire le mec qui connaît le foot. Je veux dire, c'était la dernière de Messi. On savait tous que les Argentins, ils allaient tout donner pour lui ramener ce trophée. Donc mentalement, je pense que Didier Deschamps certainement a peut-être sous-estimé cet investissement. Enfin, les gars, ils étaient partout. Donc je pense qu'ils ont sous-estimé ça. On le voit avec.
Mais ils n'ont rien sous-estimé du tout. T'es dans une finale de Coupe du Monde, tu sous-estimes pas.
Oui, mais moi je te dis que c'est ça le problème, c'est qu'ils ont sous-estimé le fait que ce soit la dernière des gars comme Di Maria, la dernière qu'un mec comme Messi, et que les 11 joueurs argentins et même.
Mais c'était la dernière de Giroud, de Griezmann, de Varane, de Lloris aussi dans ce cas-là.
Et c'est ce que je suis en train de te dire, Daniel. Dans le mental, ils n'ont pas été là. ils ont sous-estimé cette capacité.
Non, tu sous-estimes pas une finale.
Mais tu sous-estimes pas une finale. Il faut reconnaître, que l'autre, il est plus fort que toi. Il faut reconnaître qu'il te déglingue. Il te marche dessus. Il faut le reconnaître.
Daniel, à quel moment je dis le contraire de ça? Je te dis que d'une, oui, t'as l'Argentine qui a fait le match, un match incroyable, mais aussi parce que mentalement, de l'autre côté, les gars, ils sont pas rentrés dans le match.
Non, oui,
80
oui.
Minutes,
mais arrêtez, puisque si jamais les Français font basculer le match et le gagnent, comme on a été à une frappe de Colomoigny près de gagner 4-3, l'un d'un coup, on aurait dit, mentalement, ils sont extraordinaires, Deschamps, il est fabuleux, il est boost comme jamais, machin et tout. Donc arrêtez, ça peut pas être comme ça.
Ça ne s'est pas fait. Ben si, bah oui, mais aujourd'hui, c'est un match qui s'est gagné ou perdu de manière différente. Donc moi, je pense que c'est ça. Sinon, c'est inexplicable. Je vois pas d'autre explication que ça.
Donc c'est inexplicable quand t'élimines les Anglais et les Marocains en te faisant dominer, et c'est pas explicable quand tu te fais manger par les Argentins, mais que tu manques quand même à deux doigts de la gagner.
Daniel, normalement, dans ta finale, tu te donnes à 200%. Il y a même plus, tu te poses pas de questions. Là, t'as l'impression qu'ils se sont encore un peu posé de questions. Quand t'es en demi, t'es en quart, c'est pas la même appréhension. Là, t'es en finale, normalement.
Ils ont juste été meilleurs. Comme les Marocains ont été meilleurs et comme les Anglais ont été meilleurs.
Mais totalement. Mais moi, je suis en train de te dire.
Vas-y, Yannis, pour conclure.
Déficit mental.
Je pense qu'il n'y a aucun déficit mental. C'est plutôt le crédit argentin qu'il faut mettre en avant et pas le déficit français.
Le crédit argentin n'empêche pas de penser que dans l'investissement personnel des mecs en début de match, c'était pas bon.
Voilà, c'est tout. Bon. Pour moi, c'est les Argentins qui ont mangé de A à Z, techniquement, tactiquement, mentalement. Ils ont été plus forts et c'est pas les Français qui étaient.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Mais Daniel, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux te faire manger.
Et
toi être moins bon, c'est moins bon en fait, c'est juste ça. Théo Hernandez, on l'a jamais vu aussi amorphe.
Ce match, il se termine à 2-0 ou à 3-0, je sais pas combien, tellement t'es en dessous et tellement l'autre est plus fort.
Puisqu'on est à la mi-temps,
ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a depuis 5 ans un seul homme qui tient cette équipe, il s'appelle Kylian Mbappé. Si vous n'ouvrez pas les yeux là-dessus, vous ne comprenez pas ce qu'est cette équipe. Il faut arrêter de me la raconter. Moi aussi, j'ai essayé de me la raconter pendant des années en me disant un tel, il est fort, et Deschamps, il est trop fort, et il y a la magie, et il y a la chatte, et il y a ceci, il y a cela. Ben, je vous dis, ça tient à lui. Et contre la Suisse, il y a un an, celui qui rate le péno, c'est lui aussi. Tout ne repose que sur lui. C'est lui le plus fort, c'est lui qui tire les autres, c'est lui qui fait que dans les 10 dernières minutes, tu redeviens une équipe parce qu'il va te tenter une volée.
Daniel,
qui va réussir cette volée à la 81e?
Je suis globalement.
Combien de joueurs d'exception?
Attends, ça permet.
Oui, c'est un joueur d'exception.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Oui, mais
ça
n'empêche
pas quand même qu'on parle du reste.
Exactement.
Pardon.
Tu peux parler du reste, mais moi, ce soir.
Mais depuis une demi-heure, tu ramènes tout à chaque fois à ça.
Exactement. Non, un triplé en finale de Coupe du Monde.
C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme.
C'est incroyable, en fait.
Oui, mais Daniel, c'est énorme.
Et c'est Mbappé qui l'a fait. Et moi, ça m'a ramené à tous les matchs où, il y a 4 ans contre l'Argentine, si tu ne l'as pas, t'es au revoir tout le monde en 8e. Et toute l'histoire de la baraka et de la machin truc, ça n'existe pas.
Oui,
c'est Mbappé, ton
dans un instant, on parle de la deuxième mi-temps. Di Maria qui sort, l'équipe de France qui revient. L'équipe de France qui revient. Les changements de Didier Deschamps également, parce qu'on lui reprochait de ne pas faire de coaching, on ne peut pas dire que ce soir, il n'en ait pas fait.
Ah, il en a fait.
On s'est même étonné qu'il ait fait un changement en plus.
Exactement.
Il en a fait 7, mais ça s'explique très facilement. C'est que Rabiot est sorti sur ce qu'on appelle le protocole commotion.
Donc,
et quand ça arrive, tu as droit à un changement en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 7 changements ce soir au bout de la prolongation. Allez, dans un instant, on analyse la deuxième mi-temps avec vous au 32-16. On passe ensuite à la prolongue. Et dans un instant, on a également Georges Quirino qui va nous parler de Messi parce qu'il a fait ses premières déclarations après le match. Le nouveau champion du monde argentin, et Georges aussi, du coup, est champion du monde quelque part. Il sera avec nous dans l'after. À tout de suite.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 21h33 à Paris, 23h33 à Doha, ici au Qatar, dans notre studio. Oussem Loussaïef est là, Daniel Riolo présent également, tout comme Lionel Charbonnier. On analyse le match jusqu'à 2h du matin dans l'after. Et ensuite, rediffusion de la finale. Donc, une nuit 100% foot sur RMC. Si vous n'en avez pas encore assez, vous allez en avoir encore plus jusqu'au bout de la nuit, avec également la libre antenne tout à l'heure de 1h à 2h. Georges Quirino est avec nous en direct de Buenos Aires. Salut Georges.
Salut les gars, en train de marcher jusqu'à l'avenue du 9 juillet jusqu'à l'obélisque où il y a déjà des milliers de supporters argentins. Si vous entendez des klaxons derrière moi, c'est normal, c'est qu'ils sont en train de fêter leur troisième titre mondial.
Bon, tu l'as vu comment le match toi? Raconte-nous un peu.
Et moi, j'étais à la fan zone du quartier de Palermo, où il y avait des milliers de personnes. Ici, il faisait 25 degrés, soleil. Le match était à midi. Et ouais, c'était un match avec des émotions incroyables pour tout le monde. Vous savez, ils se sont vus champions du monde facilement, finalement, hein, quand il y avait 2-0, parce qu'ils se voyaient vraiment supérieurs. Et ils se voyaient tranquillement aller fêter ça. Et puis ensuite, l'égalisation française a été vécue comme un coup de massue total, comme quelque chose d'hyper cruel. Et non, bah après la prolongation et la séance de tir au but, ils avaient vraiment confiance en Emiliano Martinez. On en avait parlé hier soir, hein, les amis, de la faculté d'Emiliano Martinez à être décisif sur la séance de tir au but. Donc ils étaient assez confiants avant la séance de tir au but. Mais non, bah ici, rapidement, Gilbert, les scènes, les gens en pleurent au coup de sifflet final, les gens âgés ou les plus jeunes. Il y a des klaxons partout, il y a des drapeaux partout, le maillot de l'Albicéleste est partout. C'est un peuple uni ce soir pour fêter ça jusqu'au bout de la nuit en attendant les joueurs demain.
Alors Messi s'est déjà exprimé sur son avenir, dis-nous.
Oui, il a parlé à la télévision argentine il y a pas longtemps. L'une des grandes questions ici était de savoir si c'était le dernier match de sa carrière avec la sélection. Et il a dit que non, pour une bonne raison. Il a dit: j'ai envie de jouer encore quelques matchs avec ce maillot-là en étant champion du monde. Donc voilà, je pense qu'il a envie de continuer la fête. De la communion qu'il a
et
avec
qu'il peut
le peuple argentin.
À jouer pour lui.
Et ben pour l'instant je sais pas, Daniel, parce que on n'a pas le programme de la sélection argentine. On peut imaginer qu'ils vont organiser des matchs amicaux.
Non, mais il y a pas de compète à part des matchs.
Il y a la Copa América 2024.
La Copa América, ouais. Mais la Copa América qui arrive en
2024.
Ouais, c'est ça.
Ah, 2024. Je pensais on parlait des mois prochains là.
Non, dans les mois prochains, pour l'instant, c'est
dans un an et demi, quoi.
C'est que des matchs amicaux là, qui se profilent.
Ce serait des matchs amicaux, effectivement, pour la sélection.
Or, l'Argentine joue quasiment pas de matchs amicaux chez elle. Donc, il va peut-être falloir en faire un, quand même.
Ouais, mais là, je pense qu'ils vont en faire, Gilbert, parce que moi, je vous en avais parlé, hein, pour avoir vécu tous les matchs des éliminatoires de l'Argentine après la victoire en Copa América, que ce soit à Buenos Aires ou même à San Juan, au pied de la Cordillère des Andes, à chaque fois, c'était la tournée des Rolling Stones et il se passait un truc de fou entre Messi et cette sélection. Ça n'a peut-être pas été compris à l'étranger, mais à chaque fois, c'était vraiment un truc incroyable ce qui se passait avec Messi et le peuple argentin. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il envie de prendre un peu de rab, voilà, parce qu'en fait c'est tout ce qu'il a voulu toute sa vie, c'est ce qu'il a dit, c'est mon plus beau trophée, et il a envie de continuer encore un peu plus. Donc il restera pas seulement sur cette magnifique image de la finale de la Coupe du Monde qui a été parfaite pour lui.
Georges, est-ce qu'il a parlé du 6 janvier à Châteauroux?
Tu vois, je peux te répondre juste comme ça si tu veux, en rigolant. Non. Non, il n'en a pas parlé. Il y a un truc qui est intéressant. Je crois que tu en parlais un peu avant, Daniel, quand j'étais à l'antenne. Ici, il y a un truc qui revient pas mal dans la bouche des commentateurs à l'antenne. Je trouve qu'elle est sympa, cette expression. Ils disent: ce soir, il y a une justice poétique, finalement. C'est-à-dire que le football avait été tellement cruel avec lui. Pendant toute sa carrière, parfois justement, où ça lui échappait, et beaucoup ont cru que ça allait encore lui échapper, hein. Le commentateur ici à l'antenne sur Direct TV Sports, à chaque fois que la France est revenue, il disait quel sport de merde. Excusez-moi, je vous le dis littéralement, mais
on va pas non plus. Il y a des grands joueurs qui ont jamais gagné de Coupe du Monde, c'est pas bien grave, ils ont quand même fait des carrières extraordinaires.
Mais là, c'est mérité vraiment pour lui que ça aurait été vraiment dur.
Non mais
ah, Gilbert, je sais pas. Gilbert, un peu de cœur.
Les gars, moi j'aurais plus de cœur pour les Argentins qui sont en galère que pour Messi. Messi, il a fait sa belle carrière, c'est bien,
mais
bravo, on va pleurer. On n'aurait pas pleuré parce qu'il n'a pas gagné ce soir quand même.
Justement, c'est là où tu te trompes.
Leur bonheur, il s'agit pas de pleurer.
Et c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes, Gilbert, parce que justement, les Argentins, ils ont vécu ce match. En fait, ils s'identifient tellement à cette équipe parce qu'ils disent: cette équipe, elle est comme nous, elle souffre, parfois elle est en galère, mais elle arrive à relever la tête, elle s'en sort toujours même quand on pense qu'ils sont morts. Et en fait, Messi, c'est pareil, Gilbert. Messi, toute son histoire, finalement, maintenant, elle est vue de manière positive. Même toutes ses finales perdues.
Oui, mais les Argentins, ils l'ont détesté, Messi, ils l'ont sifflé pendant des années.
Mais c'est pas vrai, Gilbert, pas tout le monde.
Et tout d'un coup, mais un attaque renversement total. Et puis, oh, le pauvre petit Messi, le petit chou.
Mais c'est pas vrai, Gilbert, tu mens.
Vous n'avez pas honte.
Mais oui, vous l'avez oublié, ça.
T'as raison, Gilbert.
Vous n'avez pas de mémoire.
C'est des amnésiques, t'as raison, Gilbert.
Non, mais vous plaisantez, là. Non, mais attendez, on est dans une émission sérieuse. Hein.
Messi, au départ, ça se passait très mal avec les Argentins.
C'était un Catalan, un Argentin.
C'était au départ. C'était au départ, il y avait des explications.
Bien sûr.
Parce qu'il n'avait pas de respect là-bas et qu'il n'avait pas de club là-bas.
Il y a encore 3 ans, il voulait prendre sa retraite internationale. Il ne voulait plus jouer pour la sélection.
Mais c'était au départ. Il faut raconter l'histoire dans son ensemble. Il faut pas dire que les mecs ont retourné leur veste ce soir.
Mais j'ai pas dit ça non plus.
Mais écoute ce qu'on dit, Gilbert, c'était ça. Il y a une histoire Messi avec la sélection.
Mais, bon, très bien. Mais une nouvelle fois, t'as des grands joueurs. Bah, Cristiano, par exemple, il gagnera jamais la Coupe du Monde. Ça n'enlève rien à la carrière extraordinaire
qu'il
a fait.
Et t'as le droit de penser que pour l'histoire du foot, c'est bien que Messi ait gagné.
Mais très bien. En effet. Enfin. C'était pas non plus un enjeu, tu vois, la façon dont Georges le présentait, en fait, et dont c'est présenté ici par les supporters argentins, effectivement. Oui, je trouve que parfois c'est un peu trop.
Mais Georges, c'était pas surtout son identité par rapport à un Messi qui avait plus évolué, il le voyait plus espagnol au départ qu'argentin.
Bien sûr.
Moi déjà, je vais passer sur un truc là-dessus, c'est que c'était pas toute l'Argentine qui était contre Messi. Hein. C'était peut-être justement les plus âgés, ceux qui ont grandi, ceux qui ont vu Maradona, mais oui. Les plus jeunes et aujourd'hui, enfin, ils ont toujours aimé Messi. Hein. Ils ont jamais remis en cause son argentinité finalement ceux-là. Mais oui, sinon évidemment, les plus âgés, il y en a certains qui, oui, disaient, il est espagnol, il est catalan, il chante pas l'hymne, il a pas de caractère, c'est pas Maradona. En fait, son grand défaut c'était de pas être Maradona. Sauf que c'était impossible de pas être Maradona. Et c'est là où certains sont trompés et certains observateurs aussi. Vous savez, toute la presse ne l'a pas attaqué pendant toute sa carrière ici. Hein. Il y avait aussi une grande partie de la presse qui était avec lui. Il a été sifflé en Argentine, oui, pendant la Copa América en 2011. Mais sinon, pendant tous les matchs en Argentine, il a toujours été soutenu. Il a quand même eu beaucoup de soutien. Donc il ne faut pas être puis, un peu simpliste puis, dans la vision d'histoire en disant il a été détesté et aujourd'hui il a adoré.
L'histoire du foot nous indique plein de fois la versatilité du public. C'est un sport qui provoque des émotions tellement fortes que c'est fréquent de voir des populations qui en veulent à leur champion. Regarde ce qui a été fait à Mbappé l'année dernière au moment du pénalty raté. Ça s'est terminé dans les tribunaux pour des insultes d'un racisme sans nom. Moi, je me souviens, jeune, de Platini sifflé au Parc des Princes, et un an après il emmène les Bleus à la Coupe du Monde. Je me rappelle, même pendant la Coupe du Monde 82, après le match contre l'Autriche où il ne peut pas jouer, de certains qui disent bon, est-ce que les Bleus c'est pas mieux sans lui. Donc ça existe dans toutes les opinions, existe cette versatilité dans les même chez nous les journalistes, le public, c'est ce qui fait la passion de ce sport là mais les Argentins, avec l'histoire qu'avait quand même très particulière, parce que Messi, il faut pas oublier, et Georges peut le confirmer, quand tu n'as pas de club argentin.
Et oui, il a jamais joué en Argentine.
Voilà, t'es un peu vu comme un gars bizarre. Ouais. C'est tellement important dans leur vie quotidienne d'avoir un club. Lui n'en a pas. Il n'a pas de club. Donc c'est un peu comme s'il n'était pas vraiment complètement argentin. Comme en plus il avait grandi.
Ouais, au final, tu dis la même chose que moi.
Non, comme en plus il avait grandi. Mais en fait, ça n'a pas duré. C'est quelque chose qu'on ne devrait même pas souligner, parce que toi, t'as voulu le souligner comme un fait grave. Non, parce que c'est non seulement ça arrive à tous les champions.
Comme un fait qu'il faut rappeler sur l'histoire de ce gars. Tout ça.
Non mais moi il y a un truc qui m'énerve vraiment ces derniers jours, et j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux là-dessus, c'est ce que tu disais, Gilbert. Ouais, il a arrêté la sélection à un moment donné, le mec sentait pas le maillot, mais comme attendez, en fait le gars avait perdu 5 finales d'affilée, il était critiqué, il pouvait pas avoir un moment en fait où peut-être il sentait un peu moins bien, enfin en fait on va lui reprocher d'avoir un peu de sensibilité, je sais pas, enfin il avait une énorme pression.
Bien sûr. C'est tellement beau ce que tu dis. Sensibilité.
Mais non, mais c'est quoi, c'est un traître à la nation parce qu'il est sensible.
Non, il est juste fatigué.
N'oubliez pas que Maradona en 82, quand ils prennent la branlée contre le Brésil, là, c'est vrai qu'il prend le carton rouge là. Mais il est lui aussi.
Non, ils ont le droit de faire une pause, d'être fatigués. Ils ont le droit de penser à un moment donné qu'ils veulent faire une retraite.
Genre, ce qu'on fait, vu qu'on est là toute la nuit, si t'as d'autres infos, d'autres déclats importantes et tout à relayer,
sur Di Maria.
Tu reviens quand tu veux.
Pas de soucis. Ouais. À plus,
salut Georges. Bon, du coup, notre deuxième mi-temps, on en parle dans quelques secondes. On sera avec Riyad pour continuer l'analyse du match, évidemment. 23h43 ici au Qatar, 21h43 à Paris. Et l'after est là toute la nuit jusqu'à 2h du matin. Et ensuite, rediffusion de la finale sur RMC. À tout de suite.
RMC, After Foot, Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Allez, l'after est là jusqu'à 2h du matin, toujours Lionel Charbonnier, Daniel Riolo, Oussem Loussaïef. Avant d'accueillir Riyad, on va donc parler maintenant de cette deuxième mi-temps où, en effet, au fur et à mesure de la mi-temps, les choses ont commencé à s'inverser. Est-ce que Scaloni a fait une erreur en sortant Di Maria, les gars? Parce qu'on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, l'équipe argentine a commencé à reculer et c'est là qu'ils ont commencé à être en galère. Est-ce que vous le voyez comme ça?
Je pense qu'il a 2-0, il a cru que oui, c'était le plus dur avait été fait. Et d'ailleurs, il a dit dans sa conférence de presse, Scaloni, il a dit jamais on peut penser que les Français à ce moment-là, comme on les a dominés, étaient encore capables de mettre deux buts. Donc probablement qu'en mettant Acuña, il a renforcé ce côté-là en perdant oui, un atout offensif. Mais est-ce qu'à ce moment, au moment où il le fait, je pense que tous on se dit ok, il sort Di Maria, mais à 2-0 à ce moment-là, Acuña qui est en plus capable de contre-attaquer et d'être solide surtout dans les duels, j'ai pas trouvé que c'était une idée totalement saugrenue. Je me suis plutôt dit bon, Di Maria, comme il a pas beaucoup joué, il doit pas être en mesure de jouer les 90 minutes. Oui. J'ai pas trouvé que l'idée était complètement folle et dingue et bête. Mais quand
cette sortie, vous nous confirmez qu'il pleurait quand il est sorti Di Maria, genre en mode dégoûté.
Quand cette sortie s'est retrouvée conjuguée à l'entrée de Kingsley Coman, tout a basculé de ce côté-là.
Non mais Daniel, surtout, de la même manière que toi tu mets en avant, et tu as raison de le faire, la bonne première période des Argentins.
C'est pas la bonne première période, le match en entier.
Non, laisse-moi terminer s'il te plaît, laisse-moi terminer, je peux t'assurer, et ça on l'a senti très bien, même les Argentins qui étaient devant nous l'ont senti, l'entrée de Randal Kolo Muani, il a pris l'ascendant psychologique sur le latéral argentin. Je peux te jurer qu'au début c'était sur des duels très athlétiques, il allait au duel physiquement, ce que Ousmane Dembélé ne faisait pas, et puis après il a pris l'ascendant technique sur le jeu à une touche de balle, et les a mis en difficulté. Ils partaient dans leur dos. Donc même Acuña a beaucoup plus défendu, ce qui a permis à Jules Koundé de monter un peu plus. Et c'est là où on a créé les décalages.
C'est vrai. Donc ça, tu vois, je suis d'accord avec ça. Ouais.
Donc même Thuram, on fera une évaluation tout à l'heure, mais l'entrée de Thuram aussi changé pas mal.
Et c'est pour ça que moi je te dis le génie qu'est Mbappé. Et je suis totalement d'accord avec toi. Sans lui, on perd de notre valeur, on perd de notre force. Mais non, je peux t'assurer qu'aujourd'hui,
sans lui, il y a 2 ou 3-0.
Je peux t'assurer, je termine juste ça, qu'avec les entrées de Marcus Thuram et de Randal Kolo Muani, et puis même un cran aussi en dessous sur le terrain, celle de Kamavinga a apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de peps et de maîtrise technique. Non,
en fait,
et notamment aussi
en
avec
tout ça, c'est juste qu'à un moment, et c'est dos au mur, et ça a failli lui sourire encore une fois, et ça aurait été malheureux pour le football.
Oui, je vois
ça
ce
n'est
que
dos au mur qui se décide à être offensif. Parce que jusque-là, nous faire le coup de.
Les deux lignes de 4 très basses.
Je mets Giroud, je mets Dembélé, je mets Griezmann, ça donnait un visage offensif, on va dire, sur le papier plus séduisant. Mais néanmoins, Dembélé, qui n'est quand même
c'était
pas
deux lignes de 4.
C'est quand même un joueur de foot. Au Barça, il a fait une belle saison. Mais en fait, est-ce que tu lui as demandé de jouer au foot?
Non, bien sûr que non.
Depuis le début de cette Coupe du Monde, non.
Il l'a dit
donc
en conférence
moi, la
de
question
presse.
Que je me pose, la question que je me pose, quand je vous dis que tout ne tient que par Mbappé, parce que si tu continues avec Deschamps, que tu vas dans les compétitions à venir, l'Euro et la prochaine Coupe du Monde, combien de temps tu vas encore demander à Dembélé de pas jouer au foot?
Alors, on va revenir à Dembélé.
Combien de temps tu vas continuer à jouer sans latéral droit, même si Koundé a fait un bon match, attention, même si c'est pas sa place, et vraiment je lui jette aucune pierre.
Oui, c'est vrai.
Mais
c'est
à
vrai.
Un
faut
moment,
rappeler que c'est pas sa place.
C'est quand tu es mené 2-0 que tu fais rentrer les gars dont t'as parlé, qui ont donné effectivement plus de dynamisme, plus de tonus à l'équipe, où t'as joué un peu plus haut. Mais les joueurs au départ, tu les avais. Pourquoi tu leur as pas demandé de jouer? Pourquoi t'as demandé toute la compétition à Dembélé de jouer défenseur au lieu de jouer attaquant? Est-ce qu'il sait faire le mieux?
Il y a un autre facteur. Sur la sortie de Di Maria, tu penses toi que ça a fait basculer le match?
Oui.
Et que Scaloni s'est sans doute trompé?
Trompé à force. Non, je peux pas dire que ça se trouve s'il le sort pas, peut-être qu'ils en prennent 3, on sait pas. Je peux pas dire que moi, comme disait Daniel, je peux pas dire que c'était du mauvais coaching quand il le sort pour faire rentrer Acuña. Sur le coup, non. Par contre, ce qui se passe aussi, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ce qu'a dit Oussem et ce qu'a dit Daniel. Mais par contre, il y a aussi un facteur, c'est qu'à la 80e minute, les gars, les Argentins, ils ont déjà vécu un 2-0. Et ce 2-0 à partir de la 80e, et notamment contre les Pays-Bas, psychologiquement, parce que quand tu joues une finale, tu sais pas où tu vas. T'as besoin de repères, t'as besoin. Et là, le seul repère qu'ils avaient contre les Français à la 80e,
c'était
les Pays-Bas. Et ils sont mis déjà parce que nous, on a fait rentrer Coman, on a fait rentrer Kolo Muani, donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. La tendance s'est inversée et eux, ils se sont souvenus de ce qu'ils ont vécu contre les Pays-Bas et
comme par hasard, ils ont vécu exactement la même chose. Et là, tu reviens à 2-0 et derrière, bon, ils ont su réagir après en prolongation et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui les a fait reculer et qui leur a donné cette peur. Et puis, à contrario, les Français qui savent que ils se sont fait rejoindre à 2-0, ils se sont fait rejoindre par les Pays-Bas. Donc tout est possible à partir du moment où t'as un Mbappé qui est comme ça, qui est en feu. Et ben Mbappé, il est capable de t'en mettre un deuxième ou ça peut venir d'ailleurs. Et donc,
les gars,
l'aspect psychologique est oui, aussi très important à la 80e minute.
Quand Deschamps fait ses changements à la 41e, vous vous dites quoi? Vous vous dites tout là?
Il a raison.
On reconnaît pas Deschamps, vous dites il a raison. Ça lui ressemblait pas. Hein.
Personnellement, je me dis il a raison. Oui, fallait les sortir.
Oui, mais en même temps, tu peux dire on le reconnaît pas parce que il est pas coutumier de ce genre de prise de décision.
Ouais, ouais, alors après, on aurait pu dire depuis le début, on le reconnaît pas d'avoir mis ton offensif.
depuis le début de la Coupe du Monde, on le dit.
Exactement. Donc, il a changé. Il y a un autre style de management à partir du moment où déjà il joue différemment avec plus d'offensif et tout ça. Moi, le Dembélé...
Alors, attendez, puisqu'on est sur les changements, Dembélé, on y reviendra dans l'évaluation, le pauvre, il a vécu un calvaire, oui. Qui sans doute...
Ça fait trois matchs qu'il vient calvaire.
Il aura peut-être du mal à s'en relever
tout
d'ailleurs,
tout
mais enfin
monde,
bon.
Il n'a pas été bon.
Est-ce que vous comprenez, par contre, le changement de Giroud?
Oui, parce qu'il est blessé, Gilbert. Ces derniers jours à l'entraînement, il était diminué.
Il l'a dit après.
Il sort à la 60e, le match précédent.
Mais là, c'est à la 41e, là.
Je pense que.
La mise en place. Vu les occasions de la fin, j'en aurais rêvé à la fin, moi.
Oui, c'est vrai, mais Gilbert, la mise en place hier, il démarre avec les remplaçants. C'est Marcus Thuram qui est à gauche et Kylian Mbappé dans l'axe. Donc je pense que. Et ça, c'est.
On n'a rien raté. Il n'y a pas eu d'explication de Deschamps à la fin sur un problème physique.
Il le fera, mais déjà, dans la mise en place hier, il nous donne les éléments. Et là, il essaye Giroud parce que c'est Giroud. Si c'était pas un joueur aussi important, il démarre sur le banc. Mais là, il démarre devant, il dit, je le tente. Et puis, il voit qu'en fait, ça marche pas. Il fait plus les mêmes efforts. Il se replace plus sur le milieu défensif. On se fait bouffer au milieu de terrain. Ce qu'il a fait dans les matchs d'avant, parce qu'il avait la caisse, il le faisait plus aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il fait le changement. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse le changement aussitôt.
En fait, c'est un changement qu'il fallait faire. De toute façon, on s'en rend compte. Vous savez, le match est rediffusé, là. Donc, depuis tout à l'heure, on l'a sous les yeux avec Lionel. On regarde. Deschamps, à un moment, il s'en remet à ce qu'il adore le plus dans le foot, c'est la puissance physique.
Exactement.
Et lui, il veut quand on dit en rigolant, il veut du muscle.
De la vitesse.
C'est son football, c'est du muscle. Et là, depuis tout à l'heure, ce que je revois, et là maintenant, on a passé la 60e dans le match, je suis en train de le revoir. Les Français, c'est pas qu'ils font des passes qui sont plus belles, hein. Ils se font des passes à 20 mètres, le ballon, il sautille par terre. C'est pas des passes très nettes. C'est pas des décalages, c'est pas des 1-2, c'est des accélérations musclées de joueurs puissants. Qui crée des décalages dans
c'est une défense qui commence à être fatiguée, les ballons sur les premières accélérations
et dans des impacts qui commencent à faire mal. C'est pas un grand football. Hein. C'est pas du beau football. Alors,
permettez-moi d'élaborer.
C'est des athlètes. Et lui, il adore les athlètes et il a fait rentrer deux athlètes. Même si attention, Colomoigny est plutôt un joueur fin. Hein,
un joueur bourrin. Moi, j'ai adoré Colomoigny ce soir. Son action ratée en fin de match. Juste attends, ça veut dire qu'en sortant Giroud, il veut un jeu beaucoup plus d'impact,
le vertical,
en fait l'explication elle est plus tactique.
Il veut que ça déménage plus.
Tu parles toujours de muscles, mais je t'invite à regarder attentivement le physique de Randal Colo Muani.
Il est incroyable.
Il est taillé comme un coureur kényan de 5000 mètres. Hein.
T'as vu la détente du monde. Hein.
Il y a zéro muscle chez Colo Muani. Il y a de la vitesse et l'élasticité, mais pas de muscle.
Il a le droit d'être puissant par la course.
Oui,
ça veut pas dire uniquement que tu sois une baraque.
Après, ce qu'il veut aussi en changeant Giroud, c'est-à-dire que Giroud, on l'a vu. Moi, j'ai une image de Giroud aujourd'hui qui, effectivement, on l'a pas beaucoup vu dans le match, mais par contre, il pèse. Je vous promets qu'il pèse sur les défenseurs. J'ai une image de lui il monte au-dessus de qui fait la tête là et qui monte au-dessus.
Ah oui, faute.
Voilà et ça. Mais ça c'est Giroud. Il est usant. Et une fois que il avait usé comme ça, derrière qu'est-ce qu'il a fait?
Colomoigny aussi l'a fait. Mais Thuram, je sais pas. Hein.
Derrière, il fait sortir Giroud il met de la vitesse. C'est-à-dire qu'il change quelque chose. Il fallait absolument qu'il change quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait rien qui n'allait. Donc il remplace de la force en mettant de la vitesse avec Mbappé. Après, Mbappé est revenu sur le côté, Thuram est revenu dans l'axe, ils sont fait un petit peu, ils ont bougé. D'ailleurs, Dédé, il a mis une soufflante.
On a peut-être eu un passage de témoin d'ailleurs ce soir en attaque, hein, au sein de l'équipe de France. On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent.
Mais... Possible, oui. Ça va pas durer 50 ans.
Giroud, bon. Oui.
Tous ceux qui pensent que ça a basculé et qui parlent de deuxième mi-temps et tout, là, on est à la 65e, les Bleus se font encore promener, hein, sous mes yeux.
Oui, mais tu vois que dans l'engagement, on est beaucoup plus présent. On est beaucoup plus présent dans l'engagement.
Donc c'est pas brillant.
On est beaucoup plus présent dans l'engagement dès la deuxième période.
À un moment encore heureux, parce que sinon ça aurait été une finale, une finale de Coupe de France.
À sens unique.
PSG Auxerre, tu vois. Donc à un moment,
il fallait quand même
qu'ils se mettent un peu à jouer. Mais à la 65e, c'est encore le néant.
Salut Riyad.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Riyad.
Bon, on est en train d'analyser le match dans le détail. Là, t'as vu, on était sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu veux rajouter, toi ?
Non, par rapport à ce que vous avez dit, moi, je trouve que c'est le foot qui a gagné aujourd'hui.
Merci de ta lucidité.
Le pragmatisme, beaucoup de défenseurs et beaucoup d'attaquants au milieu. On met des milieux défensifs. Rien que dans le choix de la sélection, déjà, je trouvais que ça allait pas dans la construction du jeu. Et voilà, ça marche contre pas mal d'équipes. Mais là, aujourd'hui, on avait des Argentins qui ont joué au foot. Et voilà, ça fait... Enfin, je vais peut-être casser l'ambiance, mais bon, ça fait un peu plaisir quand même de voir du foot, de voir des décalages, des petits extérieurs du pied de Messi qui décale, je crois, c'est sur le deuxième but. Des actions construites...
Ça, le but de Mbappé est un beau but aussi, parce que le décalage de Thuram pour Mbappé, c'est beau aussi.
Après, justement, Mbappé, comme disait Daniel, après, franchement, Daniel, ce soir, je crois que tu fais un perfect par rapport, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mbappé, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, parce que.
Absolument.
Sur des exploits, voilà, quoi. Et à tout moment, il est capable de faire la différence.
Parce qu'il fait peur à tout le monde, parce que dès qu'il accélère, et les défenseurs se mettent en panique. Moi, je vous dis, regardez ce qui se passe.
Même quand il n'a pas la balle.
Le but de Tchouaméni contre l'Angleterre. Le but de Tchouaméni contre l'Angleterre, c'est toute la panique que Mbappé peut mettre dans une défense. Si Tchouaméni se retrouve à pouvoir mettre cette frappe-là, lui qui fait jamais une passe en avant et qui est quand même dans le jeu vraiment très limité, il met un but capital dans cette Coupe du Monde, mais il le met parce que Mbappé a mis un bordel dans la défense qui a fait qu'il n'y a plus personne sur lui.
Même quand il touche pas la balle.
Colomouani contre le Maroc. C'est Mbappé qui va encore en dribbler 3, il met sa frappe, elle est contrée, elle arrive sur Colomouani.
Il a atteint un stade où même quand il touche pas la balle, Lionel,
il suffit qu'il soit sur le terrain pour que les coéquipiers à côté puissent en profiter, à eux d'être intelligents.
Exactement.
Après, je voulais juste souligner la
comme dirait Emmanuel Amoros, exactement.
Ouais, je voulais juste souligner la prestation XXL de Di Maria. Je voulais revenir là-dessus. Parce que quand même, finale de Coupe du Monde, sortir un match comme ça à 60 minutes, il plie le match quasiment à lui tout seul. Et je voulais souligner ça parce que c'est un joueur qui est pas très bling-bling, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir jouer ces dernières années. Et voilà.
Joueur de foot, quand il est en forme comme ça, il fait plaisir.
Excellent. Ouais.
On est à la 68e et Coman et
bientôt dans l'after.
Et Kamavinga vont entrer.
Et regarde là, tu vas voir au niveau de l'énergie.
Mais
regarde l'entrée de Kamavinga. Franchement, l'entrée de Kamavinga m'a impressionné.
Jusqu'à la 65e, Rabiot n'a toujours pas fait une passe en avant. Il vient d'en faire une là, mais il est pas sûr qu'il ait fait exprès.
Rabiot, le pauvre, il est sorti avec la commotion là.
Oui, je pense qu'il était claqué. Il a beaucoup donné.
Il rentre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous savez pourquoi ?
Non.
Il a réussi à faire une fausse touche en finale.
Ah, pas vu.
Ça, faut quand même.
J'ai vu son sauvetage devant Messi sur un débordement de Di Maria.
Comme tout le monde, franchement. Ils ont fait un grand mondial.
Un mondial.
Loïc Braillet nous appelle auprès de l'équipe de France. Là, les Bleus qui sont en train de rentrer à leur hôtel ici
exactement,
au Qatar. Loïc.
Exactement, Gilbert. À l'instant même, le Bleu est juste devant moi. On est devant le Al Messila Resort. Il y a pas mal de familles qui sont déjà rentrées. Et voilà, le bus des finalistes de cette Coupe du Monde. C'est déjà marqué finaliste sur le côté de leur bus. Alors, tout est éteint. On n'a pas pu apercevoir de visage, on peut bien imaginer dans quel état sont les joueurs. On a juste croisé la maman de Kylian Mbappé il y a quelques minutes. Elle était avec une poignée de proches, une poignée de membres de la famille Mbappé. Visage fermé, tête basse évidemment. Il y a un petit repas qui est prévu avec les proches et les familles qui étaient évidemment invités. Repas avec tout le monde. Alors évidemment, c'était prévu que ce soit plus festif. Ça ne sera pas le cas. Et a priori, on part sur un décollage de Doha demain, fin de matinée, mi-journée, autour de midi, a priori, pour rejoindre Paris et la France.
Merci Loïc, bonne soirée. Dans un instant, on continue l'analyse du match. On va parler de la prolongation maintenant, des tirs au but. Puis il y aura une longue évaluation également à suivre dans l'after. L'after qui est là jusqu'à 2h du matin. Nico Jamin prendra la suite tout à l'heure. On a également à venir Walida Cherchour, Florent Gautreau qui va arriver, Kevin Diaz. Bref, ils sont tous là. Lionel, merci beaucoup.